parler des fesses.
Ma langue.
Une aisselle.
Grain de beauté.
Arcade sourcilière.
La cheville.
Ride.
Acné.
Squelette.
La glande de Bartholin.
La glotte clitoris.
Un foie.
La voûte plantaire.
L'estomac.
Doigt.
Vagin.
Mamelon.
Un cœur.
Menton.
Le plancher pelvien.
Ma langue.
Un poil.
Le muscle bulbo.
Auriculaire.
Vulve.
Ma voix.
Mon nez, ma rate,
mon
foie, ma chatte.
Cuir chevelu,
mes lèvres,
mes ganglions lymphatiques cervicaux,
mes coudes,
beauté,
sillon interfécier,
mes hanches,
mon pouce,
le sternum,
sinus,
mes reins,
mon côlon, mon rectum, mon anus
et mon nombril.
J'ai des corps à vous dire.
Chronique sonore pour parler de nos corps avec les autres et pour nous-mêmes.
Je fais corps avec cet objet. Je vous le raconte. Cet objet ou ces objets. Il faut qu'ils soient nombreux pour me protéger, former une barrière avec le monde extérieur. Le monde réel, comme on me répète. Un espace tampon fait d'imaginaire qui fait corps justement entre moi, mon corps, et le monde, le corps social. Ces objets, ce sont les livres. Alignés le long des murs de ma chambre, ils forment mon cocon. Ce que j'aime, c'est la dimension de fantasme des livres, toutes les possibilités qu'ils représentent. Ce sont des supports aux rêves. Je m'imagine les mondes qu'ils renferment, les savoirs auxquels ils donnent accès. Et c'est presque comme si je me contentais de ça. Pas besoin de les dévorer, de les digérer, de les faire mien. Je me contente de les avoir près de moi. Je les choisis minutieusement, mes compagnons de vie. Leurs titres doivent être prometteurs, parce qu'ils disent ce que je veux être et vers quoi je tends. Comme un prolongement de mon corps.
Ces dernières semaines, je fais corps avec un tout nouvel objet. C'est un Towook. C'est pas le nom d'un sextoy à la mode, ni celui d'un appareil high-tech un peu trop sophistiqué pour moi. Non, c'est le nom d'un manche en bois, au bout duquel il y a une lame, et qui me permet d'aller tester la résistance de la glace avant de marcher dessus. Accroché à lui, j'ai pu faire mes premiers pas sur la glace, en toute sérénité, sur cette banquise groenlandaise, au milieu de laquelle je me sens vraiment toute petite. Et avoir un coéquipier comme ce Towook sur qui compter, c'est assez chouette. J'en ai pas connu beaucoup des objets dans ma vie qui m'ont permis de me rassurer à l'idée qu'ils pourraient me sauver d'une belle hypothermie ou d'une grosse gamelle. Et je dois dire que celui-là, on a créé une assez belle interdépendance, en tout cas de mon côté. Donc juste une dépendance en fait. Zut. Je demanderais bien son avis, mais même au Groenland, les bouts de bois ça parle pas.
Mon bras droit est habité par une drôle de dentelle. Ce sont des lignes, des points qui se rejoignent sous ma peau pour former un dessin, un tatouage. C'est un bracelet d'encre qui se voit malgré mes pulls qui dépassent toujours de ma manche en hiver. On a eu du mal à s'aimer tous les deux. Il nous a fallu du temps pour s'apprivoiser. C'était pas le premier tatouage. Mais cette fois-ci, c'était un coup de tête. En voyage, très loin du quotidien, avec mon amie Lisa, on a rencontré un type génial qui était tatoué sur tout le corps. On est devenus amis. La suite de l'histoire, c'est se dire du jour au lendemain, allez, on y va ensemble, et se rendre le lendemain chez le tatoueur le plus proche de ce village de la jungle. C'est un tatouage d'insouciance absolue. Et puis après, quelques jours plus tard, alors que la cicatrisation du passage des aiguilles sous la peau est encore en cours, qu'on a quitté la jungle pour découvrir d'autres paysages, on apprend la mort du garçon tatoué Andrés dans un accident. L'encre imprègne la peau et continue de cicatriser. Et pendant ce temps-là, moi, je suis envahie de regrets. Je me rends compte que ce tatouage va porter une histoire triste sans que je l'ai choisi. Et que ce tatouage, je l'aurais sous mes yeux tous les jours. Si j'avais voulu me faire tatouer un memento mori, je ne l'aurais pas fait sur l'avant-bras. Et encore moins sur l'avant-bras droit, qui est celui par lequel j'agis, puisque je suis droitière. Depuis, d'autres décès sont survenus et se rajoutent à la liste de celles et ceux qui sont partis. Avec ce tatouage, on a fait corps de force, tous les deux. Pas le choix, c'était trop tard, le motif était là pour toujours, et cette symbolique s'y est attachée malgré moi. Maintenant, je pense parfois aux petites âmes que j'ai perdues en regardant cette dentelle, qui est plutôt un bracelet de force, finalement, sur mon bras. Et j'y pense aussi avec douceur, avec le sourire, en repensant aux souvenirs ensemble. Finalement, maintenant, je crois qu'on s'aime bien.
Il y a plusieurs objets auxquels j'ai pensé, et ce sont tous des objets qui projettent, et d'une certaine façon, qui me projettent. Ce sont aussi tous des cadeaux. Ces objets sont des objets de jeu et d'adresse qui demandent de l'exercice et de la concentration. Ils m'évoquent aussi des souvenirs d'enfance et des évasions plus récentes. L'un vient du Pérou, l'autre du Sénégal, et le troisième sans doute de France. Les deux premiers sont des lance-pierres et le dernier est un arc. Je disais qu'il me projette parce que je lance une pierre ou que je tire une flèche, à chaque fois, j'ai le sentiment de m'extraire de moi. Juste une fraction de seconde, je suis le caillou qui part en cloche dans la mer ou la flèche qui file à toute allure vers la cible.
Il y a des zones floues dans mon corps, des zones que je comprends pas très bien, mais qui se manifestent très fort. Des zones qui supportent pas d'être nues et seules, et d'autres qui rejettent tout ce que j'essaye de leur imposer ou de leur appliquer. On dirait qu'elles sont sensibles, mais je sais pas pourquoi. Et cette zone-là, à laquelle je pense, ça fait bien longtemps qu'elle aime pas la solitude. Elle a besoin d'être enveloppée, protégée, de se réfugier. Alors je lui donne ce qu'elle exige, un bouclier de douceur qui l'enroule. Plus c'est long et couvrant, et mieux elle aime. En hiver, cet objet est tout doux, très long. Je peux faire 3 tours avec. Aucune main étrangère ne peut venir se faufiler, et même mon nez peut y trouver un abri. En été, c'est plus léger, plus coloré, mais toujours présent. Jamais sans mon écharpe. Sinon, je me sens vulnérable, à nu, exposée au danger. Quel danger ? Je sais pas trop encore. Qu'est-ce que t'as vécu, mon cou, pour ne supporter que la présence des écharpes? Que la texture douce et moelleuse de tissu, mais rejeter radicalement la présence humaine extérieure? De quoi t'as peur? Ce serait chouette qu'un jour tu puisses troquer ces grands tissus que j'aime tant pour quelques caresses bienveillantes, non? Non. Pour l'instant, ce sont elles qui me réconfortent et j'en ai besoin.
Je fais corps avec ma culotte. Chaque fois aux toilettes, je la vois et je me dis « Ah oui, tiens, t'es là, toi !» Elle fait corps avec moi quand je la garde dans mon lit, sans raison, parce que ce soir-là, j'imagine que sans elle, j'aurais froid. J'aime ses couleurs et ses odeurs qui changent au fil des saisons et de mes humeurs. C'est un peu comme un hamac, où mes lèvres peuvent s'abandonner. Ici, elles n'ont rien à prononcer, à formuler, à expliquer. Elles vivent au chaud. Je fais corps avec ma culotte aussi, quand parfois, je la laisse chez moi, sans moi.
Avant, au réveil, il y avait ces quelques instants où le monde était autre. Flou pour vous, mien pour moi, et puis tâtonnement de la main sur la table de chevet, je les attrapais et je vous rejoignais dans une réalité beaucoup plus ajustée. 17 ans de binocle, et j'avais des modèles toujours plus élégants. Ovale fine saumon fumé, en passant par les rectangles saveurs aubergines, sans oublier les superbes aviatrices à motif écaille. 17 ans d'objets à poser sur la bouille. Il y a eu certes la révolution adolescente des lentilles, où les lunettes deviennent moins rébarbatives. Mais quand même, rendez-vous tous les matins et tous les soirs, j'ai jamais été si fidèle et exclusive. Et dépendante. Et c'est là que ça merde. En fait, voir comme les autres, c'est vital. Il y a eu ce moment où tout mon corps a compris qu'il était perdu, en danger sans elle, alors démuni, distance confuse, présence invisible, elles ont changé de valeur. Elles n'étaient plus un outil de rattachement au monde commun, ni même un accessoire de mode. Elles deviennent objets de survie. Quand j'y repense, en vrai, mes narines s'agitent, je fais la moue. Me revient en mémoire l'odeur de chair brûlée et moi pleinement consciente. Ma vue crame. J'ai le seum. J'ai le seum parce que le médecin, il parle d'opération de confort et que mon corps, il hurle en fait, non, c'est pas confortable, que non, il a pas envie, mais qu'il a pas le choix, connard. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça et si c'est juste, mais... Parfois, j'ai l'impression que j'ai choisi de me mutiler, de m'amputer de ma vue. Ma vue a cramé. Et avec elle, se rangent mes lunettes et s'envolent tous ces moments où tout autour, c'était autrement. Ces moments où, genre dans un soudain besoin d'ailleurs, j'accrochais mes lunettes à mon col et les endroits familiers, ils changeaient de texture et les façades, elles se transformaient. Ces moments où les gens connus ils devenaient des inconnus, dans l'immensité comme dans l'intimité d'ailleurs. Il y avait ces moments où je touchais sa peau avec les yeux et où nos corps ils étaient comme polymorphes et tout était nouveau. Il y avait aussi ces moments dehors, dans le flou, et la seule sensation nette, c'est le sol. Le sol ferme, sous mes pas tout en bas, genre englobé dans du confus, juste rattaché à vous par l'apesanteur. Un léger contact sous les pieds. Je respire, je calme mes lunettes de soleil sur le sommet de mon crâne, je ferme les yeux, Je sens la lumière à travers mes paupières. L'obscurité n'a pas changé, elle.